Tenant HM, notre troisième ou quatrième cours, je ne me rappelle plus, sur le chapitre 52, Perek Nun Bet. Je pense troisième cours. Pourquoi on a parlé dans Perek Nun Bet? On a commencé à parler dans le chapitre précédent, dans le chapitre 51. On a posé une question, je vais répéter très rapidement, page 145. Je vais répéter très rapidement ce qu'on a parlé dans les cours, dans les cours précédents. Dans le chapitre 51, on a posé la question, une question de base, une question existentielle, qui est comment d'un côté on nous dit que la Shrina est omniprésente, qu'Akadosh Baruch Hu est présent partout, mais d'un autre côté on nous dit que Akadosh Baruch Hu est plus présent dans certains endroits que d'autres, et que presque on nous dirait que dans certains endroits il est présent, dans d'autres endroits il n'est pas présent. Et c'est même pour ça qu'on vous dira que, c'est même pour ça qu'on vous dira que il faut faire les mitzvot, faut pas faire les averot. Bon, c'est la question qu'on a posée. On a demandé comment ça se fait que d'un côté tu me dis que Akadosh Baruch Hu est présent partout, et d'un autre côté tu me dis que Akadosh Baruch Hu est plus présent dans certains endroits que d'autres. On avait répondu à cette question en donnant un exemple. Est-ce que vous vous rappelez de l'exemple? Ça fait quand même un mois qu'on l'a étudié. On avait répondu à la question en donnant un exemple. C'est quoi l'exemple qu'on avait donné? On a donné l'exemple comment l'énergie de la Neshama se transmet au corps. D'accord? Et on a expliqué qu'il y avait deux canaux. Deux vecteurs. Est-ce que vous vous rappelez les deux vecteurs? Qui se rappelle? Oui. Premier vecteur, c'est Etsem. C'est quoi Etsem? Ça veut dire, c'est le vecteur de
L'essence de...
l'essence. Alors, est-ce que tu peux me définir en un mot ce vecteur-là? Le vecteur de l'essence.
En un mot,
En deux mots, en
je suis
dix mots.
incapable.
En dix mots, alors.
En 10 mots non plus.
C'est quoi ce vecteur du Etsem?
C'est l'énergie non spécifique.
Énergie non spécifique? Ça veut dire quoi, énergie non spécifique? C'est une énergie qui ne
Qui
peut
n'est
pas
pas
être spécifiée? Ouais.
dédié.
Qui n'est pas dédiée. Donc on a expliqué que c'est une énergie qui ne peut pas être dédiée. C'est pas qu'il n'est pas dédié, qui ne peut pas être dédiée, puisque par définition, c'est l'essence. Et l'essence, c'est la même partout. Il n'y a pas de différence. On avait donné l'exemple, vous vous rappelez l'exemple de la volonté, ou de la joie. Quand je suis joyeux, ou quand je veux quelque chose, ça touche tout le corps. Très bien. Ça, c'est un premier vecteur. C'est un premier vecteur. Et donc, on voit qu'il y a une certaine énergie qui passe par ce vecteur-là. Qui fait que quand j'ai envie de quelque chose, ben c'est pas que, même si c'est ma tête qui a envie, ben du coup c'est tout le corps qui va participer. Ça veut dire que il y a une certaine énergie qu'on peut pas définir où elle se trouve, et en vérité, elle se trouve nulle part et partout. On est d'accord? Donc ça tu as dit comment ça s'appelle? Ça s'appelle le vecteur du Hetzel. Deuxième vecteur, c'est quoi? Qui se rappelle du nom qu'on avait donné? Un mot, un mot, un mot. Deuxième vecteur. Deuxième vecteur. Guilouille. D'accord? C'est pour ça que je vous rappelle, parce que je sais que ça fait un mois qu'on a appris ça. Guilouille. Même moi, j'ai dû me le remémorer quand j'ai révisé tout à l'heure. Guilouille. C'est quoi guilouille? Guilouille, ça veut dire dévoilement. Deuxième vecteur. Là, c'est un vecteur par lequel, d'accord, l'énergie, elle va être centralisée dans le cerveau. Et du cerveau, elle va être distribuée. Et là, il y a des endroits où elle va plus se dévoiler, ou des endroits où le cerveau va plus donner, et des endroits où le cerveau va moins donner. Par exemple, le cerveau va se développer, va envoyer beaucoup plus d'énergie. On va dire par exemple, je sais pas moi, il va envoyer beaucoup plus d'énergie au cœur que ce qu'il va envoyer aux doigts de pied. C'est beaucoup plus d'énergie. D'accord? Pourquoi? Parce que ça, c'est une énergie dédiée, c'est une énergie qui rentre dans la catégorie de Giloui. Giloui, on a dit, c'est le dévoilement. On avait donné plusieurs exemples, je vais pas repasser dans, on va pas tout répéter les cours d'avant, mais il y en a eu beaucoup de détails. On avait donné un exemple très simple pour comprendre ça. On avait donné l'exemple dans l'éducation. Quand on a des enfants. On sait que quand on a des enfants, l'approche qu'on a par rapport à nos enfants, on retrouve ces deux vecteurs. On a un vecteur qui est Etsem, qui est l'essence, qui dit que quoi que mon fils fasse, tous mes enfants seront tous les mêmes pour moi. Peu importe peu importe si un est bon et l'autre est moins bon. Il n'y a pas bon, moins bon. C'est mes enfants, point à la ligne. Ça, c'est le vecteur du Etsem. Et on a le deuxième vecteur qui est le vecteur du Giloui. Le vecteur du Giloui, ça veut dire que bah, je vais adapter mon rapport avec la personne selon ce que je pense qu'elle mérite, ou selon ce que je pense qu'elle a besoin. Donc, un enfant que je pense qui est plus méritant ou qui a plus besoin, je vais plus lui donner. Un enfant que je pense qui est moins méritant, bah, je vais moins avoir envie de lui donner. Ça, c'est le deuxième vecteur. Vous voyez bien comment dans l'éducation, on voit que ces deux vecteurs sont valables en parallèle. C'est-à-dire, toujours à voir que on sait toujours que les parents, au bout d'un certain temps, ils ont toujours un certain favoritisme envers un certain enfant. Mais quand tu leur poses la question, tu lui dis quoi? Ça veut dire que l'autre, c'est pas ton fils? Ça veut dire chassé shalom. Et pourtant, il y a toujours un faible pour un enfant ou pour deux enfants, etc. Un faible ou un fort. Bon. Donc, de la même manière, pour en expliquer tout ça, rappelez-vous, la question initiale qu'on s'est posée, c'est par rapport à la Shrina. D'un côté, tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu est omniprésent, est présent partout. D'un autre côté, tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu est plus présent dans certains endroits que d'autres. C'est quoi la réponse? La clé de la réponse, on l'a donnée. C'est que de la même manière que dans le corps, on a expliqué qu'il y a deux vecteurs, il y a un vecteur etzem, un vecteur dévoilement. Dans le vecteur etzem, tout est la même chose, il n'y a pas de différence. Alors que dans le vecteur dévoilement, ça va dépendre du comportement de la personne. Ça veut dire qu'il faut être apte à recevoir. De la même manière, qu'est-ce qu'on a expliqué, par rapport à Kadosh Baruch Hu, dans le vecteur etzem, effectivement, Akadosh Baruch Hu est présent partout et de la même manière. Il n'y a pas de différence. On est d'accord? Ça, c'est le vecteur etzem. Mais dans le vecteur
Giloui,
vous me suivez ou pas? Dans le vecteur Giloui, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le vecteur Giloui, là c'est au contraire, là ben effectivement, Akadosh Baruch Hu va s'adapter selon chacun, et plus on sera méritant, plus on sera des kélim, c'est-à-dire des récipients pour recevoir, et plus Akadosh Baruch Hu pourra nous donner. Là maintenant aujourd'hui on va s'arrêter sur un point spécifique. Pour rappeler que dans l'exemple que je viens de donner avec la Neshama, on avait expliqué que il y a l'essence de la Neshama qui, elle, est redistribuée partout de la même manière, enfin elle n'est même pas distribuée, elle est présente partout. Et on a expliqué qu'il y a le Giloui, donc il y a l'énergie qui vient sous forme du Giloui, qui, elle, va être d'abord centralisée à quel endroit? Dans le cerveau. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, dans la science, on explique comme ça, que c'est centralisé, il y a une énergie. Le centre nerveux, il l'appelle. Le centre nerveux, c'est l'énergie. Donc le centre nerveux qui centralise toute cette énergie. Très bien. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est quoi le centre nerveux d'Akadosh Baruch Hu? On a compris qu'il y a l'énergie qui est Etsem, c'est-à-dire il y a l'énergie de Dieu qui se trouve partout de la même manière. Ça, c'est la Shrina qui est présente partout. Ça, c'est quand on dit aux Juifs, peu importe ce que tu as fait, quoi que tu as fait, tu resteras toujours Juif. Bon, ça c'est Etsem, d'accord. Il y a l'énergie Giloui. Ça veut dire, il y a l'énergie qui va être distribuée plus ou moins. Mais cette énergie, avant de passer au stade Giloui, elle doit passer par une forme de cerveau. C'est quoi le cerveau? Spirituellement, c'est quoi ce cerveau? On est d'accord? Est-ce que vous avez compris la question ou vous voulez que je répète?
On va répéter au moins pour moi. Encore.
Est-ce qu'on peut dire que le SM, c'est la... C'est la vie. C'est-à-dire, c'est l'énergie divine.
Oui.
Qui donne la vie.
C'est la vie, exactement.
C'est la vie.
Oui, c'est la vie.
De chaque
Chayla Chayot.
On avait dit que même le vide, c'était...
Oui, même le vide.
La...
Oui, mais non. Ce qui veut dire, c'est que dans la vie d'un homme, on retrouve ce qui veut dire, c'est que dans la vie d'un homme, on voit que le etzem, c'est le etzem, c'est le fait que la personne vit.
Tout ce qui vit.
On avait dit même un corps mort.
Non, ça c'est dans l'exemple. Nous, on a un exemple, ça veut dire comme ça. Même le corps mort, Akadosh Baruch Hu continue toujours à l'alimenter. Mais dans l'exemple qu'on a donné, on s'est focalisé uniquement sur le fait qu'il y a quelque chose qui se transmet au niveau du Etsem et quelque chose qui se transmet au niveau du Giloui. D'accord? Donc le Etsem, on a expliqué qu'il est omniprésent partout, alors que le Giloui, il va dépendre de chaque endroit. C'est ça le point qu'on voulait ressortir. Maintenant, après, quand on applique ça par rapport à Kadosh Baruch Hu, donc là, c'est ce qu'on a expliqué, que même un corps mort, à Kadosh Baruch Hu, le fait toujours vivre par le Etsem. Bon, j'en fais la parenthèse, je répète la question. Je répète en une minute, c'est dans une minute, parce que si on part pas sur des bonnes bases, on va perdre notre temps dans l'heure qui suit. Alors, donc je répète, d'accord? Je répète en une minute, on a expliqué, d'accord? Bonsoir. Donc je répète en une minute ce qu'on a expliqué. On a expliqué dans le chapitre 51, on a posé la question, on a dit comment d'un côté on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu est omniprésent, et d'un autre côté on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu est plus présent dans certains endroits que d'autres. Donc comment répondre à cette question? D'accord? Qui est une question existentielle comme ce qu'on a expliqué. La réponse, on a expliqué, tu es avec nous, tu écoutes Yves, c'est que de la même manière que dans la Neshama, on a deux vecteurs pour transférer l'énergie. Il y a le vecteur Etsem, le vecteur de l'essence, qui lui est présent partout de la même manière. Et on a le vecteur Giloui, donc le vecteur du dévoilement, qui lui fait que le cerveau va redistribuer aux différents membres ce qu'ils ont besoin, et il va distribuer une quantité différente à chacun, selon ce qu'il a besoin. Donc de la même manière, par rapport à Kadosh Baruch Hu. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, on a le vecteur Etsem, ça c'est le vecteur de l'essence, qui lui va redistribuer partout de la même manière, il n'y a pas de différence. Mais on a un deuxième vecteur en parallèle qui s'appelle le vecteur du Giloui, le vecteur du dévoilement, qui lui va redistribuer à chaque endroit selon ce qu'il mérite. Donc il ne distribuera pas la même chose à la rue et à la synagogue. Parce que c'est le Giloui, c'est le dévoilement. D'accord. Maintenant, nous, ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui, on va s'arrêter aujourd'hui sur le Mohar. D'accord. On a expliqué que dans l'exemple de la Neshama, l'énergie, avant d'être distribuée, elle est centralisée, où elle est centralisée? Dans le cerveau. D'accord? Donc, on essaie d'expliquer maintenant, dans le cadre de Akadosh Baruch qui redistribue son énergie, c'est quoi le cerveau d'Akadosh Baruch. Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué?
Dans cette question, oui. Je parle de distribuer. Mm-hmm. Souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Le monde a besoin d'une énergie, oui. Il va la puiser. C'est la différence. C'est pas toujours l'intellect qui va envoyer au monde. Après,
oui.
Aussi, il a besoin du monde.
Oui, j'ai compris. Ça peut aller dans les deux sens. Oui, j'ai compris. Oui, d'accord. Exact.
Est-ce
en effet.
Est-ce que c'est le cas aussi là ou pas?
C'est le cas, bien sûr. C'est le cas aussi. On peut avoir dans les deux sens, c'est pas de problème, ça n'est pas de problème. Mais ce qu'on veut expliquer, c'est qu'il y a un côté qui n'est pas dédié, donc qui n'est pas quantifié, d'accord. Et il y a un deuxième vecteur qui lui est dédié et quantifié. Ça veut dire que ça va dépendre. On va distribuer à chacun exactement ce qu'il a besoin et ce qu'il mérite, d'accord. Ce qu'il mérite et ce qu'il est capable de recevoir. Sauf que qui c'est qui redistribue dans le deuxième vecteur, c'est le cerveau. C'est qui le cerveau d'Akadosh Baruch Hu, tu as dit, je viens de dire, Torah et Mitzvot. Bon, alors maintenant on va essayer de s'arrêter dessus. C'est quoi ce cerveau d'Akadosh Baruch Hu? On a dit c'est Torah et Mitzvot. Je reprends dans les mots. On a un petit problème ici. Le problème qu'on a, c'est que dans la Kabbalah, on explique, et après je vais vous montrer, on va lire ensemble dans le. Puisqu'on vient de l'Akba Omer, et de la Rabbi Shimon Bar Yochai. On va lire un petit peu dans le Patach Eliyahu qu'on devrait lire tous les matins, au moins qu'on lit avant le Shabbat. Je vais vous montrer comment c'est extraordinaire, comment quelques lignes disent ça. On a ce qu'on appelle le Levush Amalim et Levush Amastir. Un vêtement, à quoi ça sert? Ça sert d'après vous à cacher ou à dévoiler?
Ouais.
À cacher. Vous êtes sûr?
Bah, on prend les deux.
À quoi ça sert un vêtement?
Si on l'enlève, on dévoile.
À cacher ou à dévoiler?
Ça dévoile aussi une personnalité.
Ah, mais vas-y, continue. Un vêtement, à quoi ça sert?
On dit qu'il y a des gens sur des chaussures seulement, ils arrivent à voir toutes les personnalités d'une personne.
À maquiller.
Il y a des gens. Il y a des gens qui s'expriment au travers de leurs vêtements. On est d'accord? Par exemple. Comment, c'est quoi quelle expression?
Dans toute l'expression, marcher à côté de ses pompes.
Marcher à côté de ses pompes, bien sûr.
Avec les chaussures, c'est qu'il est.
Quand tu es en vacances, t'as pas envie de te mettre en costume. T'as envie de te mettre dans une.
Décontracte.
Pourtant, c'est qu'un vêtement. Ça veut dire que c'est clair que le vêtement influe. Et le vêtement, c'est un mode d'expression. Là, dans ce cas-là, c'est un vêtement qui dévoile la personnalité. Et quand j'ai envie d'être là, je vais mettre un costume, une cravate, etc. Ça veut dire que je vais essayer d'exprimer quelque chose. Bon. D'un autre côté, on a aussi ce qu'on appelle le levouche à mastir. Un vêtement qui cache. Comme par exemple, premier exemple, Adam Harishon, d'accord, Vaïd Boshachou avec Rava. Le premier vêtement qui a été porté dans l'histoire, pourquoi ils ont porté les vêtements? C'est pas pour être plus classe ou pour se plaire l'un à l'autre. C'était parce qu'ils voulaient se cacher de quelque chose. Ils voulaient cacher une certaine nudité. Le Zohar explique la chose suivante. D'accord. Le Zohar explique la chose suivante. Il dit que la Torah, d'accord, donc on a expliqué, la Torah c'est le cerveau d'Akadosh Baruch Hu, comme ce qu'on va expliquer aujourd'hui. La Torah, c'est un levouche à mastir. C'est un vêtement qui est capable de cacher un message. Alors je vais essayer de donner un exemple qui donne le Rav Stenza, je pense qu'il y a un très bon exemple. Imaginez-vous qu'on doit véhiculer de l'électricité. Vous avez de l'électricité qui vient d'une centrale. Vous voulez véhiculer l'électricité. Bon. Donc avec quoi vous allez véhiculer l'électricité? Avec des fils. Bon. Mais si ces fils maintenant risquent de se brûler à cause de l'électricité? C'est pas bon. D'accord? Donc c'est quoi le principe? C'est quoi le principe pour véhiculer de l'énergie? C'est quoi le principe numéro 1?
Conducteur,
oui, ça veut dire quoi conducteur?
C'est pour véhiculer.
Véhiculer, mais sans qu'il explose. Il faut qu'il véhicule.
Il faut que la puissance soit adaptée à la capacité du canal.
D'accord, ça veut dire quoi? C'est quoi le rôle du fil? De transmettre. Mais est-ce que le fil va dévoiler l'électricité ou va cacher l'électricité?
Le fil? Il va la contenir.
Je vous embête aujourd'hui. Hein. Le fil, est-ce qu'il...
Est-ce
que le fil, il va cacher l'électricité ou il va dévoiler l'électricité?
Il la dévoile.
Non, hein? Il va pas dévoiler, c'est l'ampoule qui va dévoiler, par exemple, s'il se va se
bien. Faire. Mais donc le fil, il sert à quoi?
À conduire, c'est tout.
Donc si tu veux conduire quelque chose, on a un problème ici. C'est que je veux conduire quelque chose qui a une puissance extraordinaire. Mais le problème, c'est que si tu veux le conduire dans quelque chose qui va être ébloui par cette puissance-là, eh ben du coup, la lumière ne sera pas conduite. Donc il faut le conduire par quelque chose qui ne sera pas, entre guillemets, ébloui par cette lumière et qui est la capacité de conduire quelque chose, mais en restant ce qu'il est. Mais d'accord? Exactement. D'accord. Je sais pas. Vous allez me trouver. Je sais pas comment on appelle ça en électricité. Comment on appelle ça en électricité, monsieur? Hein? La tension? Oui, il doit avoir un mot. Ah, il doit avoir un mot. Je ne serai pas l'électricité, mais il doit avoir un mot, à mon avis. Ça veut dire que c'est quoi le principe? Je pense, je trouve que c'est un très bel exemple. Il dit que le principe est que pour quand tu veux véhiculer quelque chose, quand il faut ce qu'on appelle un levouche à mastir. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un vêtement, quelque chose qui puisse envelopper la chose, pour le cacher, de manière à ce qu'il puisse être véhiculé, sans que l'objet qui est véhiculé va faire exploser l'objet qui est en train de le véhiculer. D'accord ?
Ça sert à canaliser.
Bon, ça sert à canaliser, exactement. Là, il explique ici que de la même manière, la Torah, d'accord, c'est un levouche à mastir. La Torah, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Torah ? C'est un vêtement qui est capable de cacher, d'accord ? De cacher le message d'Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire un vêtement qui est capable de cacher le message d'Akadosh Baruch ? Alors, pour comprendre ça, on va lire un petit peu quelques lignes de Patach Eliyahu. Mais prenez la décision, on va dire quelques lignes. Le principe de Patach Eliyahu ou Patach Eliyahu, c'est la même chose.
9.
Quelle page ?
9.
Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ah, c'est des numéros spéciaux. Bon. Alors. On va dire quelques lignes du début et quelques lignes de la fin. Patach Eliyahu. Patach Eliyahu Vahamar. D'accord. Prenez donc la première ligne. Donc ça, c'est l'introduction de Tikkuné Zohar. D'accord. Dans le Zohar, comme j'ai expliqué il y a deux semaines, il y a plusieurs sections. D'accord. Donc on est Drarabba, Drazuta, etc. Bon, il y a plusieurs sections. Et une des sections du Zohar s'appelle le Tikkuné Zohar. Et dans le Tikkuné Zohar, il y a une introduction. Une introduction qui est très longue, qui est presque aussi longue que le texte du Tikkuné Zohar. Bon. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette introduction ? Patach Eliyahu Navi Zachor Letov Ve'amar. Donc Eliyahu Navi a commencé, on répète, un enseignement d'Eliyahu Navi. Ribon Almin, maître du monde, Deant Uchad, Vela Bechushban. Akadosh Baruch Hu, tu es un, Vela Bechushban, mais pas un qu'on ne peut compter. Ça veut dire que normalement, quand il y a un, il y a forcément deux. Donc toi, tu es un, mais un qui ne rentre pas dans le cadre d'un compte, d'un nombre. Bon, ça va. Ant Uilaa Alkol Ilaïn, Stima Alkol Stimin. Akadosh Baruch Hu, tu es plus haut que tout ce qu'on pourra connaître de plus haut, d'accord ? Et caché, voilé de tout ce qu'on connaît qui pourrait être voilé. C'est-à-dire que pour nous, il y a des choses qui nous paraissent incompréhensibles, d'accord ? Et pour nous, ça c'est le summum. Et bien, Akadosh Baruch Hu, même de ces choses-là, il est voilé. Let Marshava Tfisa Barklal. Alors écoutez bien cette ligne-là, parce que c'est ça ce qui va nous aider. Let Marshava Tfisa Barklal, il n'y a aucune pensée qui puisse te... Insaisissable. Insaisissable. Dans quel sens ?
Dans tous les sens. Dans un sens qu'on ne peut pas...
Parce que c'est les impôts maintenant. Donc, Let Marshava Tfisa Barklal, il n'y a aucune pensée qui puisse te saisir, qui puisse comprendre. Qui puisse te comprendre. Et continue, je vais lire encore quelques lignes. D'accord ? Ant ou Da'apakat. Ah, chez les Ashkenazim, ils disent Da'apikat. Bon, dans le Zohar, à la base, il n'y a pas de voyelle. Ant ou Da'apikat et Sertikuni. D'accord ? Akadosh Baruch Hu, de toi vont sortir 10 tikkunim. Ça veut dire quoi 10 tikkunim ? C'est ce qui correspond aux 10 sphirot. Vekarinan lon et serfiran. Donc ces 10 tikkunim là, on les appelle, c'est ce qu'on appelle les 10 sphirot. Alors tikkun ici, il faut comprendre par, comme expliquent les commentaires, il faut comprendre par attachement. D'accord ? Par attachement. Donc, vekarinan lon et serfiran, c'est ce qu'on appelle les 10 sphirot. L'an agabeon almins dimin de laït galian, valmin de yit galian. Avec ces 10 sphirot, Akadosh Baruch Hu va diriger les mondes cachés qui ne sont pas dévoilés. Les mondes cachés qui ne sont pas dévoilés. On a eu encore une fois sur ça. Bon, on a expliqué brièvement. On avait expliqué que les mondes cachés qui ne sont pas dévoilés, même au tzadikim qui voit les choses cachées. Bon. Ve'almin de yit galian, et les mondes dévoilés, ça veut dire notre monde. Avec quoi Akadosh Baruch Hu dirige tout ça? Par le biais de quoi? Par le biais des 10 sphirot. Toujours avec moi? Ok. Ubehon, itkesiat, mibnenacha. Alors écoutez, il y a encore ce point-là. Extraordinaire. Ou Behon Itkesia Kuvienacha, c'est au travers de ces midot, de ces donc 10 midot, que Akadosh Baruch Hu se cache des hommes. Ça veut dire, grâce à quoi il se cache? Il a besoin de quelque chose pour se cacher, il a besoin d'un fil pour se cacher. Il a besoin d'envoyer une énergie, mais s'il envoie l'énergie directe, ils vont pas tenir. Il faut que ça passe par un fil. Que ça passe par un fil qui puisse cacher cette énergie, et qu'après, une fois que cette énergie va être atténuée avec les adaptateurs qu'il faudra, on pourra récupérer cette énergie. C'est quoi qui va cacher cette énergie? C'est les 10 surotes. Ve'hant ou, ve kashirlon ou meyachedlon. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, d'accord, qui va unir ces 10 surotes, d'accord, et qui va faire que ces 10 surotes vont se marier les unes avec les autres pour pouvoir s'occuper de l'autre. Alors, on va citer quelques lignes. Et vous prenez la ligne qui commence les là. Maintenant qu'on a fait plusieurs préchapitres de Tania, vous allez voir qu'on comprend beaucoup plus facilement. Alors, vous prenez la ligne qui commence les là vers le milieu de la page, vous avez
là.
Les là. Je sais que c'est un cours de Tania, mais je pense que c'est important d'apprendre ça, parce que sinon, en tout cas, moi, ça m'a aidé à comprendre le cours de Tania d'aujourd'hui. Alors, vous avez la ligne qui commence les là. Les là, prenez à la fin de la ligne, après le point. Levushin tekinaklon, ou takantlon, bon. Veminayu fachin nishmatin livne nasha. Akadosh Baruch Hu, donc, a créé des levushin, des vêtements, par lesquels la neshama va être transférée aux hommes. Ah, des vêtements. C'est quoi ces vêtements? Vekama gufin takanaklon, veitkereu gufa legabe levushin imechasian aleon, veitkereu betikuna da. Et donc, il explique la chose suivante. Il dit que tous ces corps-là, alors, donc, c'est justement, c'est levushim, ces vêtements. C'est quoi ces vêtements? D'accord? Ça fait? Da. Ah oui. Chesed, Zeroa, Yamina. D'accord? Donc, on a 10 levushim, 10 vêtements. 10 vêtements qui correspondent aux 10 sphirot. Il va commencer par les midot.
Comment tu traduis da?
D'accord? Ça. Alors, betikuna da, ça veut dire dans ce tikkun. Chesed, Zeroa, Yamina. Chesed, c'est le bras droit. D'accord? Donc ça, on l'a expliqué plusieurs fois dans le cours Tania. Chesed, c'est le bras droit. Gvura, Deroa, Smola. D'accord? Gvura, donc Gvura, c'est la rigueur. Droa, Smola, c'est le bras gauche. Tiferet, Gufa. Tiferet, c'est quoi? D'accord? C'est le corps. Ça veut dire quoi, le corps? Ça veut dire c'est celui qui va faire le mariage des deux. De la même manière que le corps et le mariage. C'est dans le corps que va se marier la Neshama, d'accord, enfin la Neshama avec le corps. De la même manière, Tif Eret Goufa, c'est dans Tif Eret, donc c'est comme on l'a expliqué plusieurs fois, ça va être le mariage de Chesed et de
Gvura.
Ensuite, Netzar Vehod Tren Shokin. Netzar, c'est quoi Netzar? Netzar, c'est l'envie de gagner. C'est l'envie de gagner qu'on a envie d'avancer, donc c'est lié l'ambition, donc l'envie d'avancer, donc c'est lié au bras droit ou au bras gauche. L'envie d'avancer, l'envie d'aller vers l'avant.
La gauche.
C'est le droit. Donc c'est positif. Et l'humilité. D'accord?
C'est une contraction.
C'est une contraction. Alors, comment ils les appellent ça ici? Tren shokin. C'est les deux cuisses. C'est-à-dire quoi les deux cuisses? Ça veut dire que c'est la manière comment, à la base, on a un bras droit, un bras gauche. Et après, ça va s'exprimer plus bas dans notre vie, de manière à ce que le bras droit va nous pousser à avancer, donc Netzach, l'envie de gagner, et le bras gauche va nous pousser à être humble. C'est pas forcément négatif, on a besoin du bras gauche. Donc c'est les deux cuisses. Ça veut dire c'est comment ces deux bras vont descendre au niveau des deux cuisses. Yesod, Siyuma Degoufa, Od Brit Kodesh. C'est quoi Yesod? D'accord? Yesod, c'est la communication, d'accord? Et c'est la Brit Mila. Voilà. En rapport avec la Brit Mila. C'est que Yesod, d'accord, c'est au biais de la communication qu'on va communiquer avec Akadosh Baruch Hu. Là, c'est pas fini. Malchut Pe, Torah She Be'al Pe Karin Anla. Ensuite, la dernière Sphira, d'accord, donc on a eu Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod. D'accord, donc on a déjà fait 6. Ensuite, c'est quoi la 7e? Malchut. C'est quoi Malchut? Il dit ici le Zohar, il dit c'est quoi Malchut? Malchut c'est la royauté, ça veut dire c'est le fait de transmettre quelque chose. Le roi est là pour s'occuper de son peuple. P, c'est la bouche. Torah chez Béalpé Karinenla. C'est la Torah orale. Qu'est-ce qu'on appelle la Torah orale? On va expliquer tout ça dans le cours de Tania aujourd'hui. Ah, pour l'instant on est dans les mots. Torah chez Béalpé Karinenla. Maintenant, après, il va revenir au début, au tout début. Parce que là, vous avez remarqué qu'on a commencé directement par les midot. Mais dans les sphirotes, normalement, on aurait dû commencer par l'intellect. L'intellect qui est suivi des sentiments. Donc là, il reprend, mais dans le Zohar, bon, dans le Zohar, il a un ordre différent. Il dit Chochma Mocha, Ii Machashava Milegav. C'est quoi Chochma? Chochma, c'est Mocha, donc c'est le cerveau. Ii Machashava Milegav, c'est la pensée qui se trouve à l'intérieur. Quoi, la pensée qui se trouve à l'intérieur? Ça veut dire c'est les pensées qui se trouvent au fond de nous qu'on n'est même pas capable d'exprimer. C'est dans ce qu'on a expliqué, ce qu'Admor HaZaken a expliqué dans le premier chapitre du Tanya, le fameux flash. Vous vous rappelez du flash? C'est le fameux flash, des fois on a des idées comme ça qu'on n'a pas encore développées, qui viennent du plus profond de nous. Ça c'est Chochma. Bina Liba, Bina est lié au cœur, ou Ba Halev Mevin, et c'est avec ça que le cœur il va être capable de comprendre. Donc c'est avec ça qu'on va être capable de comprendre et ressentir. Ve'al ilen tren k'tiv, anistarot, l'Hachem et l'Okeni. Et sur ces deux, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, sur ces deux, c'est-à-dire Chochma et Bina, qu'est-ce qui est écrit? Anistarot, l'Hachem et l'Okenu, que ça, on pourra jamais les comprendre, ils resteront toujours cachés. Donc, vous voyez, on revient toujours au vêtement, le vêtement qui cache. Que ça, finalement, même nous, quand on croit comprendre la Torah, en vérité, on ne comprend rien.
Bina, c'est le cœur.
Ouais. Bina, c'est lié au cœur. C'est lié au cœur parce que c'est grâce à elle que le cœur va comprendre. Ça se passe dans la tête, mais c'est grâce à elle que le cœur va comprendre. On va sauter quelques lignes.
Et date, il a oublié.
Ouais, dans ce décompte-là, il n'y a pas de date.
Donc, il y a Keter, alors.
Ouais. Et qui était, exactement. Alors, on va passer maintenant à la page 10. Je vais lire encore deux lignes, et après, on va repasser au Tania. Bon. On prend à la page 10, vous commencez à la ligne. Bon, ça va, rassurez-moi, vous suivez pour l'instant.
Non, nous aussi, mais là, c'est vrai qu'il maîtrise.
Pour faire un dessin, tu peux penser là.
Il y a la droite, la gauche, voilà, c'est pas compliqué. Il y a la droite, la gauche, l'harmonie. La droite, la gauche, l'harmonie. Voilà, c'est pas compliqué, c'est très simple. D'accord? Donc, il y a le bras droit. D'accord? Le bras droit, c'est la bonté, le bras gauche, c'est la rigueur, et celui qui est entre les deux, c'est celui qui va marier les deux. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ensuite, on a les deux cuisses. C'est quoi les deux cuisses? C'est comment on va appliquer ça dans notre vie. Donc, le bras droit va nous amener l'envie de vaincre, l'envie d'avancer, d'accord? L'envie de gagner. Le bras gauche va nous amener l'humilité. D'accord? Et qu'est-ce qui va nous amener, qu'est-ce que va nous amener le bras du milieu, enfin, le bras du milieu? Si je peux dire, donc, ce qu'il y a au milieu, Yesod, c'est quoi? Yesod qui va nous amener, c'est la communication. Parce que dans la communication, on va devoir marier les deux. On va devoir marier le fait de vouloir transmettre quelque chose. Mais on va devoir en même temps, d'accord, avoir une certaine humilité. Ça, pour l'instant, c'est simple. Malchut, c'est celui qui est tout en bas. C'est celui qui va, d'accord, alors ça, on va expliquer aujourd'hui. C'est celui qui va communiquer toute l'arbre des Sephiroth, qui va le communiquer à celui qui est en dessous. Bon. Mais là, on va s'arrêter aujourd'hui plutôt sur Chochma et Bina. Il dit, c'est quoi Chochma et Bina? Elle dit Chochma et Bina, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a dit Chochma, c'est le flash qu'on a, ça veut dire c'est l'intelligence qu'on a au fond de nous, qu'on ne peut même pas saisir, qui est au fond de nous. Et Bina, c'est quand on arrive déjà à prendre cette idée et à la développer. Bon, alors écoutez bien, on va lire encore quelques lignes. Prenez à la page 10, je pense que c'est la dixième ligne, la ligne qui commence Antrakim. Vous savez? Antrakim. Antrakim, vela v'chokhma yedia. Akadosh Baruch Hu, toi tu es chacham, c'est-à-dire tu as la chokhma, tu as donc la sagesse. Vela v'chokhma yedia, mais pas avec une sagesse qu'on connaît. Avec quoi alors? On va en parler. Ant ou mevin, velav mi bina yedia. Toi, Akadosh Baruch Hu, on sait que tu as une bina. Mais Vela mi bina yedia, c'est pas par une bina yedia qui nous permet de te connaître. Letlach atar yedia. Je m'arrête ici dans le Patach Eliyahu. Letlach atar yedia, ça veut dire toi, Kadosh Baruch Hu, tu n'as aucun endroit, aucune chose qui est connue, qu'on pourra dire on a compris à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Bon, après le Zohar, il développe encore beaucoup, mais je m'arrête ici. Bon. Donc, quel est le point commun de tout ce qu'on a expliqué, l'idée qui revient dans tout ce qu'on a expliqué, c'est que, même si Akadosh Baruch Hu va utiliser des vecteurs donc pour nous transmettre de l'énergie, des vecteurs comme Chorma, Bina, Da, Tresed, etc. Mais finalement, l'idée qui est revenue au moins 4 fois dans ce qu'on a expliqué, c'est que, au travers de ces... C'est qu'on ne peut pas espérer connaître Akadosh Baruch Hu, capter Akadosh Baruch Hu, saisir Akadosh Baruch Hu, au travers ces midotes-là. C'est impossible. Au contraire, Akadosh Baruch Hu se cache dans ces midotes. Rappelez-vous l'exemple de l'électricité. Si on veut que l'énergie puisse être conduite, il faut que ça passe par quelque chose qui va être capable de canaliser l'énergie et forcément de cacher l'énergie. Pour qu'après, au bout du fil, elle sera... Donc on va la récupérer avec un adaptateur. Ça, c'est l'idée qui revient toujours. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'on appelle un levouche à mastir, levouche à marlim, un vêtement qui cache. Bon. Alors pourquoi on nous dit ça par rapport à la Torah? On nous dit ça par rapport à la Torah pour nous expliquer quelque chose de très important. Pour nous expliquer comment ça se fait que nous, aujourd'hui, quand on étudie Torah et Mitzvot, comment ça se fait qu'on n'est pas ébloui? Comment ça se fait que tu me dis que dès qu'on a vu qu'il y a eu des Neshamot, des fois, qui ont essayé, voilà, et des Tzadikim, des fois, qui ont essayé de monter Nichnesu les Pardes, ils ont essayé d'aller comprendre le fin fond des choses, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est mal passé. Pourquoi ça s'est mal passé? Enfin, à part Rabbi Akiva, pourquoi ça s'est mal passé? Ça s'est mal passé parce que c'était trop dur à voir. Ils étaient éblouis. La question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que nous, quand on étudie la Torah, quand on fait les mitzvot, pourtant c'est la même Torah, c'est les mêmes mitzvot, comment ça se fait que nous ne sommes pas éblouis? Pourquoi nous ne sommes pas éblouis? Et ça, là, la réponse d'Edmond Razaken, c'est justement le rôle du cerveau. Le rôle du cerveau, ça va être de faire passer cette énergie, mais d'une manière cachée. Avec un levouche, donc avec un vêtement qui va cacher ça. De manière à ce que celui qui va recevoir, ben, il peut, à la limite, ne pas comprendre, d'accord? Ne pas comprendre la teneur du message. Comme on donne un exemple suivant, d'accord, on dit, si vous faites une blague, dans un endroit, faites une blague quelque part, donc vous pouvez avoir des gens qui vont comprendre la blague, qui vont rigoler, vous pouvez avoir des gens qui vont dire, la blague était nulle. Bon, mais le point commun qu'il y a entre tout cela, c'est qu'au moins ils ont compris la blague. Mais celui qui n'a pas compris la blague, c'est-à-dire celui qui ne comprend même pas de quoi tu parles, il ne comprend pas ta langue, il ne sait pas de quoi tu parles, c'est... Même, ça va même pas commencer, c'est pas qu'il va dire j'ai pas compris la blague. Ça veut dire, c'est pas qu'il va dire ah, j'ai écouté mais j'ai pas compris. J'ai écouté, ça me fait pas rire. Il prend même pas ça en compte puisqu'il comprend pas dès le départ. Dès le début, il comprend pas, c'est pas sa langue. Dès le début, ça veut rien dire pour lui. Mais ce qu'il va expliquer ici, c'est que finalement, la Torah, d'accord, c'est la même chose. La Torah, c'est Akadosh Baruch Hu se cache dans la Torah. Dans Bereshit Rabba, il y a une idée, il appelle là-bas, il dit que la Torah, c'est Novlot Chorma. Novlot Chorma, je sais pas comment je peux traduire ça en français. Novlot Chorma, c'est les, je peux traduire par les chutes. Comment on dit, on appelle les fruits qui tombent d'un arbre. Les fruits qui tombent d'un arbre, mais qui tombent, quoi. Il y a un nom en français? Non, il s'appelle... En hébreu, ça s'appelle Novlot. Novlot, ça veut dire ce qui tombe. Ce qui tombe, c'est vous avez un fruit, vous avez un arbre, vous avez des fruits qui tombent comme ça. Des fruits qui tombent, qui viennent de l'arbre.
Mais qui sont pas mûrs. Enfin,
Qui sont verts. Mais
qui
viennent de l'arbre.
Ouais.
Comme
pourquoi ils tombent?
Peu importe. Le vent, la branche, ce que tu veux.
Est-ce qu'on a prélevé le maracère? Est-ce qu'ils sont considérés?
On appelle ça Novlot.
Voilà, il faut attendre la trouma, on peut le manger déjà.
Alors, de la même manière dans la Chorma, là-bas, le Midrash Rabba, il dit on a ce qu'on appelle Novlot Chorma. C'est-à-dire, de la même manière, nous, la Torah qu'on étudie, c'est la même Torah qu'Akadosh Baruch Hu a donné en haut. Mais elle a tellement été cachée que finalement c'est comme un fruit qui est tombé. C'est une chute. Elle est tombée, à tel point qu'on n'est pas ébloui, quand on n'est pas ébloui par la Torah qu'on va étudier. Vous vous rappelez l'exemple que je vous ai donné il y a 3 semaines? Je vous ai dit que la Gemara Brachot, elle raconte, elle dit que une fois il y a eu un enfant qui a étudié à l'école le livre d'Ézéchiel, et tellement il a été ébloui par le livre d'Ézéchiel qu'il en est mort. Parti de ce monde. Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Elle dit « Bikshu le Gonzo ». Que les Chachamim ont voulu cacher le livre d'Ézéchiel. Ils disent, c'est un livre dangereux. Faut le cacher du public. Et qu'est-ce que les Chachamim ont répondu à ce Chacham qui voulait le cacher? Ils lui ont répondu, ils lui ont dit, est-ce que parce que cet enfant était particulièrement intelligent, pas seulement intelligent, il avait une neshama particulière et qu'il a pu être ébloui, ça veut dire que tous seront éblouis? Ils lui ont dit, personne ne sera ébloui, t'inquiète pas. Et c'est ce qui s'est passé. En effet, on n'a pas caché le livre d'Ézéchiel. C'est ce qui se passe avec la Torah. Donc la Torah, c'est un levouche à Marlim. C'est un levouche, donc c'est un vêtement qui est là pour cacher, et non pas pour dévoiler.
Et bien, c'est tous les gens que tu donnes, le fait de se cacher, ça n'a pas d'impact sur les gens.
Oui.
Sur les exemples.
Oui, bien sûr. Hein.
Donc, quel est l'intérêt de la chose? Ça n'a pas d'impact sur
les... L'intérêt de cacher, c'est que des fois, on doit faire passer un message. Et si le message, on le fait passer tel quel, on risque d'éblouir la personne, et la personne ne va pas comprendre. Donc, des fois, on va le cacher.
Pas du tout. Il va arriver, mais on le décode pas. Un message qui nous arrive, mais il n'est pas décodé. Ça fait quoi?
Très bien. Ça peut être comme ça, mais Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre de l'énergie.
Ça nécessite d'approfondir.
Là, ce qu'il va expliquer, l'Admor HaZaken, dans le cours d'aujourd'hui, il va essayer d'expliquer comment ça se fait que dans la Torah, on a plusieurs étapes. On a le Chumash, on a la Mishnah, on a la Gemara, on a le Zohar, on a plusieurs étapes. Et ce qu'il va expliquer, c'est que toutes ces étapes, d'accord, Bon, on verra. D'accord. Ce qu'il va expliquer, c'est que toutes ces étapes, justement, c'est un levouche à mastir. Ça veut dire que Akadosh Baruch veut nous transmettre certaines choses, mais comme il sait qu'on risque d'être ébloui, donc il va nous le transmettre dans un emballage, il va nous cacher ce qu'il y a à l'intérieur, de manière à ce qu'on ne soit pas ébloui. Mais en vérité, la teneur du message sera le même. Donc il va nous donner le message. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on va expliquer ça. Vous voyez ce que... Il va nous donner le message. Mais il va le camoufler, il va le cacher. Il va le cacher. C'est comme, si je peux donner un exemple, c'est comme si par exemple, je vais expliquer quelque chose à quelqu'un, mais je peux pas le dire directement parce que j'ai peur de le froisser, donc je vais lui raconter une histoire. Si il comprend, il comprend. Il comprend pas, il comprend pas.
La question de M. Bellassène, c'est est-ce que ça sert à quelque chose d'envoyer un message
qui ne soit pas compris.
Finalement, que, c'est pas qu'il n'est pas compris, il n'est même pas entendu comme message.
Ce que je veux dire, c'est que le message va être entendu. Le message va être entendu, mais il va être entendu de manière cachée. Il va être entendu, ça veut dire, à travers d'une chute, ça veut dire, il va être habillé. Il va être habillé, il va prendre une autre forme, il va prendre la forme d'un exemple. Mais il sera toujours là. Donc c'est un levouche à mastir. C'est un vêtement qui est là pour cacher. Bon, c'était peut-être un peu compliqué, maintenant ce sera encore plus compliqué. Alors, Uma ou levouche? C'est bon? Prenez la page 100, quel an il est?
La page. On les met dans Guilouille, là.
Ouais, ouais. Il y a un guilouille, oui, j'amène, ça serait bien dans un guilouille.
Non, mais là, c'est guilouille, quand même.
C'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que j'ai écrit dans le SMS que vous avez reçu.
C'est le numéro de la page, on l'a très bien.
C'est pour ça que j'ai écrit dans le SMS que le mérite de l'Akba Omer nous aide à approfondir le Tania. Alors, où Maou allez-vous? Page Aïn Guimel, donc c'est la page 145. Ou Maou allez-vous, donc c'est 10e ligne de la page. Ou Maou allez-vous chez Yuchal et Astira. Donc encore une fois, on parle du... Donc c'est le cerveau. Rappelez-vous que pour le vecteur du Guilouille, on doit forcément passer par un cerveau qui lui va centraliser cette énergie. D'accord? Et qui lui après va transmettre cette énergie. Mais le problème, ce qu'il nous faut, ce qu'on a besoin, c'est que ce cerveau, il doit prendre cette énergie et après il doit la redistribuer. D'accord, à chacun des membres du corps. Donc il nous dit la chose suivante. Oumahu allez-vous chez Yuchal et Astira. Donc je vais aller un peu vite parce que je vous ai déjà montré la majeure partie dans le Fatahileu. Oumahu allez-vous chez Yuchal et Astira ou l'Albisha. Quel est le seul vêtement qui peut cacher la lumière ou les Albisha et donc l'habiller. L'habiller, mais rappelez-vous ce que je vous expliquais, dans un vêtement qui cache. Veloïd vatel vimtiud biora. De manière à ce que la personne ne sera pas annulée, ne sera pas éblouie par la lumière. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse étudier la Torah et garder toute notre tête. Il faut qu'on puisse étudier le message sans être ébloui par le message. Hu retsono vechokhmato itbarer amlubashim betorah umitvatea aniglet lanu ulvanenu veoraita mechokhma nafkat. La Torah vient de la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Donc elle vient tout droit de la chokhma d'Akadosh Baruch Hu, sur laquelle, dernière ligne qu'on a lue dans le Patach Eliyahu, Ant u chakim vela bechokhma yediya. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est chacham, mais pas dans une chokhma qui nous permet de, pas dans une chokhma qu'on peut comprendre. Donc il dit, qu'est-ce qu'il explique ici le Mourazaken? Il dit que, c'est quoi le vêtement qui peut nous permettre de faire passer un message, en le cachant, en le camouflant? C'est au travers de la Torah. C'est-à-dire que moi, par exemple, Torah et Mitzvot. Moi, je vais étudier un texte. On va parler d'une vache. D'accord? D'une vache qui a encore né, d'un taureau qui a encore né une vache. Shorsh Nagar Safara. Moi, je vais mettre des tefillines. Ça va être du cuir. Ça va être quelque chose de matériel. Donc, on va habiller un message dans quelque chose de matériel. À tel point qu'une personne peut passer toute sa vie sans savoir que derrière les tefillines, il y a un concept extraordinaire. C'est tellement bien caché. C'est un vêtement qui cache tellement bien que tu peux les mettre toute ta vie. Tu vois, le concept sera là. Mais sans chercher ce qu'il y a derrière et sans trouver ce qu'il y a derrière. Ihorma ila'a, de l'ela le'a'ela, me'alma de'id galia, de'yu chakim ve'la be'chorma yidia. Donc ça, c'est la chorma d'Akadosh Baruch Hu, qui va se cacher, donc comme on a expliqué, au travers d'un vêtement qui va camoufler. C'est quoi le vêtement qui camoufle? C'est la Torah qu'on est en train d'étudier, dans laquelle on va parler de choses matérielles.
Quel
intérêt? Donc moi, chez Nid Ber Le'el, l'intérêt, c'est que ça arrive jusqu'à nous, sinon ça n'arrive pas.
Ouais, mais quel est le sens, le but?
Le but,
c'est toujours la même question qui revient, mais
le but, c'est qu'il faut que ça arrive jusqu'à nous.
Si on a vu le Zohar tout de suite, on est perdu. On commence par un courage. Et puis
après... Le Zohar, c'est déjà une adaptation.
Oui, mais c'est un adaptation de Torah derrière.
Oui.
Donc si on a vu le Zohar,
quand on fait ce Kéli, ça passe par nous.
Oui.
Alors quel est l'intérêt? Quelque part, c'est peut-être pas à notre niveau, mais...
L'intérêt qu'on a expliqué ici, c'est qu'on aura exactement le même message qui va passer, sauf qu'il va être camouflé.
Mais Et pour quelle raison?
D'accord. Parce que sinon on éblouit. On peut pas le recevoir sinon. D'accord. C'est comme si vous prenez un enfant.
Quelle est notre fonction?
Je vous donne un exemple. Prenez un enfant, vous allez lui expliquer un texte de Zohar. Ouais. C'est même pas qu'il va pas comprendre. C'est que c'est pas qu'il va dire papa, j'ai pas compris. Ouais. C'est qu'il il sait même pas de quoi tu parles. C'est pas comme un adulte qui va dire j'ai entendu des notions mais c'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas du tout son langage. Donc on va devoir prendre le concept et on va essayer de le faire descendre à la vie de l'enfant. De manière à ce que l'enfant, quand il va venir le voir après, de quoi papa il a parlé, il va dire papa il a parlé d'un bonbon. Parce que papa en vérité il a donné un exemple avec un bonbon. Donc tu vas dire de quoi papa il a parlé d'un bonbon. Ah c'est nul un bonbon, il a que ça à faire de parler des bonbons. Et il peut être persuadé toute sa vie que son père il a parlé d'un bonbon, et c'est tout. Alors qu'en vérité, son père, derrière le message qu'il lui a passé, il y avait une teneur, il y avait un message extraordinaire. C'est la même chose que Kadosh Baruch Hu fait avec la Torah. C'est un levouche, c'est un vêtement qui est là pour cacher.
De la part d'Hachem, c'est quoi son but pour procéder de la sorte, c'est-à-dire se cacher à travers.
Son but est de nous envoyer la Torah, ouais, le chesed d'Akadosh Baruch Hu.
Mais sinon on ne l'aperçoit pas, on la ressent pas.
On l'aperçoit. Si, on l'aperçoit.
Mais on dit qu'on ne comprend pas, comme c'est caché.
Non, je dis qu'on ne comprendra jamais l'origine. On va la comprendre telle qu'elle était adaptée pour nous.
Ouais.
Mais quand on essaye de monter, on ne pourra pas comprendre. C'est pour ça qu'il a dit « Ant ou Hakim, Vela Bechorma Yedia ». Quand on prend une idée qu'on a, par exemple une idée dans les affaires. Imaginez-vous que vous avez une idée dans les affaires. D'accord ? Donc vous allez l'appliquer. Mais si vous pouvez remonter jusqu'à la source de l'idée. Vous pouvez remonter jusqu'à la source de l'idée. Je veux dire, quelle était l'idée originale ? On peut remonter, c'est possible. Mais là, à Kadosh Baruch Hu, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas remonter. Puisque tous les vêtements qu'il y a eu au passage, c'est des vêtements qui étaient là pour camoufler. Alors que normalement, chez nous, c'est le contraire. On a une idée, et après on va développer cette idée. De manière générale, les hommes, ils travaillent dans un système que le vêtement est là pour dévoiler. Il est là pour dévoiler, décortiquer. D'accord ? Chez Akadosh Baruch Hu, c'est le contraire. Dans la Torah, c'est le contraire. Le vêtement est là pour cacher. Cacher quelque chose qui est trop fort. C'est comme une lumière qui est trop forte, on a besoin de l'atténuer.
Et pour nous, quel est le sens à cela ? C'est ça la question.
Le sens à cela, c'est que c'est la même Torah qui est en haut. Sauf que le message a été adapté à notre vie. Chapitre 36, si vous voulez plus approfondir.
Non, il n'était pas là, il y avait 4
heures. Non, j'ai compris la question. Le fond de la question, je pense avoir compris. Alors, « Ukmo shenit ba'er le'el, she'or ensof, melubash umeyuchad bechokma ilaha, ve'u itbarer bechokmato echad, rak sheyarda beseter amadregot, mi madrega le madrega beishtal shelut haolamot, ad shenit lapsha bidvarim gashmiim, she'em tariag mitzvot haTorah. » Dans le Shir HaShirim, il nous parle de Seter Amadregot. C'est quoi Seter Amadregot? D'accord? Yonati, Bechagve, Asela, c'est ça? Be Seter Amadregot. De quoi, qu'est-ce qu'il dit là-bas dans le Shir HaShirim? Yonati, Bechagve, Asela. D'accord? Donc il dit Yonati, c'est quoi Yonati? C'est ma colombe. D'accord? De qui il parle quand il parle de sa colombe?
Non, Madrigo.
De qui il parle quand il parle de la colombe?
Israël.
Hein? Non. D'Israël. Yonati, Bechagve, Asela. C'est quoi Bechagve Asela? Ça veut dire
c'est Madriga, non. C'est pas Madrigot.
Mais c'était à Madrigot.
Madrigot,
je crois. Je ne me trompe pas.
C'était à Madrigot, je confirme.
Hein? Je pense. Mais bon, je dis pas le Shir HaShirim, donc peut-être je me trompe, mais je pense pas que je me trompe.
Pourquoi tu dis pas?
C'est pas assez.
C'est
trop
Kadosh.
Trop Kadosh. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit Yonati Bechagve Asela, donc ma colombe, il parle d'Israël. Bechagve Asela, ça veut dire elle est cachée, Bechagve. Je sais pas comment on peut, Shir HaShirim, je sais pas si on peut le traduire. Bechagve, ça veut dire elle est cachée dans un recoin du rocher. D'accord? Donc le rocher ici, ça veut dire c'est ce qu'il est là pour protéger, comme Tsour. Beseter Amadregot. Beseter Amadregot, ça veut dire quoi? Dans le secret, d'accord? Sous le couvert, on aurait traduit, sous le couvert, Amadregot des niveaux. Sous le couvert des niveaux. C'est ça, des marches. Comment c'est écrit? Ah, Amadriga.
Madriga?
Non, H. Ah oui. Il y en a type Ragvasel, c'est Amadriga.
Avec. C'est ce qui ressemble.
Bon.
En conclusion, il faut que tu lises le.
Non, conclusion. Conclusion, puisque je ne lis pas, je ne le connais pas par cœur.
Il ne pas.
C'est QFD.
Il
ne
pas lire.
C'est QFD. Il ne faut pas les démontrer. Tu ne le lis pas, donc tu ne connais pas.
Dépend de quel sens on voit la chose, hein. C'est comme on peut la voir soit Netzar, soit Hod.
Ça change pas le pluriel.
Oui. Alors, Beseter Amadriga. Donc c'est comme, enfin, en tout cas ici, l'Admor HaZaken est dit Beseter Amadrigot.
Ah bon?
Ouais.
Ah, c'est ça qui t'a trompé les
marques. Ah oui. Alors, c'est quoi verset Yuddalet?
Tu pensais qu'il reprenait sur Hachirim, peut-être qu'il ne reprenait pas.
Non, non, il ne sait pas sur Hachirim.
Parce que lui non plus, il ne disait pas. Il ne disait pas le bon
jeu. Rav.
Rav, il a dit qu'il avait repris sur Hachirim. Là, il est en train de choper le four.
Ouais. L'Admorazaken a écrit un de ses commentaires les plus profonds sur Shir HaShirim. Sur Shir HaShirim, il a écrit dans l'Likutei Torah. Et c'est une des trois choses qu'il a voulu instaurer, comme dans le monde Farad. Non, il a voulu instaurer le Shir HaShirim, mais vous connaissez quoi la suite de l'histoire?
Ça brûlait.
Hein? Sa synagogue, elle a brûlé. Il a compris que c'est un signe d'Akadash Baruch Hu. Trois choses qu'il a voulu instaurer. Une des trois choses, c'était, donc il y avait Birkat Kohanim tous les jours, comme on est à Israël, il y avait le Shir HaShirim, et bon, il a voulu l'instaurer, mais du ciel, on lui a montré qu'on ne lui donnait pas le droit de le faire.
Il a pensé que c'était en relation.
Bashgara Pratit.
Non, mais il a vu que c'était en relation.
Voilà. C'est au niveau d'Admor Hazaken. Bashgara Pratit, j'ai lu dans une histoire qui dit que le Gaon de Vilna voulait aussi instaurer ces trois choses-là. Il voulait aussi instaurer. J'ai oublié la troisième chose, il y avait le Birkat Kohanim, et il y avait le Shir HaShirim, troisième chose, j'ai oublié. D'accord? Le Madlikin, je sais pas. Je me rappelle, c'est flou dans ma tête. Mais en tout cas, d'accord. Le quoi?
Il était
Oui, Ketoret.
Non, tu es pas.
Entier.
Quelque chose qui est trop puissant, ça peut pas être accepté partout.
Non, c'est pour ça que je dis ce qui dit Shir HaShirim, au contraire, continuez à le lire. Moi, j'ai pas le droit de le dire. Je veux pas que ma synagogue elle brûle. Alors. Donc, Besseter à Madrigot. Donc, il dit que donc la Torah est descendue Besseter à Madrigot, ça veut dire sous le couvert des niveaux. Madriga en hébreu, c'est une marche, d'accord? Donc, on descend sous le couvert des niveaux, sous le couvert des marches. Ça veut dire que chaque fois que tu descends, à chaque fois, ça va le cacher encore plus et encore plus. Donc, encore une fois, c'est le contraire des hommes. Encore chez les hommes, chez nous, quand je descends, c'est pour me dévoiler à la personne. Chez Akadosh Baruch Hu, quand il se descend, c'est forcément qu'il s'est encore camouflé, parce que sinon on va être ébloui et on pourra pas continuer à vivre, on pourra plus avoir le libre arbitre pour un petit peu répondre à la question de M. Daniel. Mais bon, chapitre 36. Alors, mi madrigal et madriga, donc achenitlapcha bitvarim gashmim shem taryag mitzvot à Torah, jusqu'à que la Torah a été habillée dans des choses matérielles qui sont les 613 mitzvot de la Torah, donc en d'autres termes, 613 mitzvot qui sont purement matérielles. C'est quoi ces mitzvot qui sont matérielles? Eh ben, c'est Akadosh Baruch Hu qui est descendu. D'accord? Mais ce qui veut expliquer ici l'Admor HaZaken, c'est que finalement, de la même manière qu'on a expliqué par rapport à la Neshama, que même si dans l'énergie dédiée, il y a une énergie qui va arriver au cœur, une énergie qui va arriver aux pieds, etc., et que ce ne sera pas les mêmes énergies, mais finalement, personne ne te dira que l'énergie qui arrive dans le pied, elle ne vient pas de la tête. C'est sûr qu'elle vient de la tête. Il y a un centre nerveux, c'est lui qui a donné les ordres. Sauf que quoi? Après, l'énergie qui va arriver dans le pied, elle va être camouflée. Ce sera pas la même énergie qu'il y a dans le cœur. C'est l'énergie qui va être moins forte et qui va être moins importante. Mais ce qui veut expliquer ici l'Admor HaZaken, c'est que de la même manière, pour revenir à la question tout à l'heure, les mitzvot que nous avons, même si les mitzvot que nous avons, c'est le doigt de pied d'Akadosh Baruch Hu, ça serait déjà bien, d'accord? Donc sinon on va se dire, bon, doigt de pied, qu'est-ce que ça vaut par rapport au cerveau d'Akadosh Baruch Hu? Étant donné que c'est toujours le cerveau qui donne les ordres, d'accord? Donc, même si après, dans le passage, le cerveau a dû adapter, a dû camoufler, mais finalement, c'est toujours le même cerveau qui donne les ordres.
Ça vient de là.
D'accord? Et c'est ça le secret de Seter à Madrigot. C'est-à-dire qu'il y a un quartier général qui, lui, va redistribuer à tout le monde et qui lui va cacher, va camoufler selon ce que chacun a besoin. Mais finalement, tout vient du même endroit. Et c'est pour ça qu'il dit le Zohar, il dit, Antu Hakim Vela Berorma Yedia, que la source de tout ce qu'on peut connaître dans la suite, c'est la Chorma d'Akadosh Baruch Hu. Ah, mais pourtant, on a différentes choses qui vont venir dans le monde ici-bas. On aura étudié la Mishnah, la Gemara, comme ce qu'on va expliquer, le Zohar, etc. Il n'y a pas de question. Parce qu'après, c'est des niveaux, c'est des marches. De la même manière que le cerveau peut donner des ordres aux pieds, à la main et au cœur, et on se plaindra pas, parce que chacun est une section différente, et c'est dédié. De la même manière, Kadosh Baruch Hu va dédier à chacun ce qu'il a besoin, donc c'est Besseter à Madrigot, sous le couvert des niveaux. C'est un vêtement qu'il est en train de cacher. Au Biyeri Data, Veishtalshilut meolam leolam, gam ashrina yarda venitlapshaba bechol olam veolam. Vezeu echal kotche kodashim, shebechol olam veolam.
Bon, là, on va rentrer dans les thèmes kabbalistiques. Là, ça va, on va s'accrocher un petit peu.
Donc, est-ce que c'est clair jusqu'ici déjà? le concept, qui est un vêtement qui cache, d'accord? Donc le cerveau, c'est le cerveau en vérité qui va cacher, qui va adapter à chacun, mais le vêtement va être là pour cacher. C'est comme l'exemple qui va être là pour camoufler un concept. D'accord? Pour contenir, c'est pas seulement pour contenir. C'est pour contenir, mais c'est pour cacher quelque chose, pour qu'il soit, c'est pour cacher le message, pour pas qu'on soit ébloui par le message. Contenir, oui. Moi, j'aurais dit pour véhiculer plutôt, mais bon, on peut dire contenir.
Contenir, ouais. C'est-à-dire que pouvoir le distribuer aussi, le contenir, c'est-à-dire que tu peux le garder, le cacher, c'est-à-dire finalement.
C'est que la scène va nous donner une définition. Lévou Shamastir, Lévou Shamalim.
Contenir, c'est-à-dire que tu.
Et toujours des définitions pertinentes.
Tu le contiens, tu peux le distiller derrière. C'est ça la différence. Alors que si tu le caches, finalement, tu ne fais que.
On va essayer ensemble de donner une définition. Le vêtement qui cache et le vêtement qui dévoile.
C'est ça.
Comment est-ce qu'on peut donner une définition en français? Le vêtement qui cache, le vêtement qui dévoile. Compliqué, hein? Ça peut donner une définition.
Si tu vas de l'extérieur à l'intérieur, c'est le vêtement qui cache, tu vas de l'intérieur à l'extérieur, c'est le vêtement qui dévoile.
Les vêtements que nous on a, c'est toujours des vêtements qui sont là, comme on a expliqué, pour dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur.
Non, il y a aussi pour cacher ce qu'il y a à l'intérieur.
C'est pour
cacher aussi.
Cacher ce qu'il y a à l'intérieur.
Par exemple, il va expliquer dans la suite que la parole, c'est aussi un vêtement. Pourquoi?
C'est un véhicule.
Parce que la parole, exactement, c'est un véhicule. Au travers de la parole, je vais véhiculer quelque chose, mais je vais dévoiler quelque chose.
Ouais.
La parole va m'aider à dévoiler quelque
dévoiler
chose.
Donc,
c'est-à-dire que là, c'est un vêtement qui sert à m'exprimer. Et la majorité des vêtements qui nous entourent, c'est-à-dire par exemple, je vais écrire quelque chose, je vais dire quelque chose, je veux porter un vêtement. La majorité des choses qu'on va essayer de faire avec lesquelles on va habiller notre vie. Tu vois, moi, j'ai donné les exemples. On a donné des exemples de Marshava, Dibour, Maasé. C'est-à-dire, je vais essayer d'habiller une pensée dans des mots. Je vais essayer de dire une pensée. Je vais essayer de faire quelque chose. Ça va être toujours une expression.
Mais tout,
peut-être on va traduire ça par expression.
Tout est dans le mot, parce que expression,
ouais.
Ou extérieur, ou
ouais.
Un truc, c'est vers l'extérieur. C'est vers l'odeur. Quoi.
Très bien. Donc on a un lévouche, donc on a un vêtement qui est là pour dévoiler. Donc ça, c'est un vêtement qui va être là, on va appeler ça le vêtement de l'expression. Et le deuxième, c'est la Torah, c'est un vêtement qui est là pour cacher. Hein? Comment on peut trouver? Quel mot on peut trouver? Un vêtement qui est là pour cacher. Qui est là pour cacher quelque chose. Je vais essayer de vous dire les mots, vous allez me donner la définition. C'est quand j'ai envie de faire passer un message, mais je peux pas le passer directement, je vais devoir le camoufler. L'habiller? Ah, l'habiller. Bah, tu vois, l'habiller.
Oh, l'habiller, non.
Non, parce que c'est.
Non. Après, l'habiller, tu le changes.
Au contraire, tu donnes de l'épaisseur.
Si.
Je vais devoir le. Comment on dit en français?
Si.
Le.
Tu peux le modifier quand tu l'habilles.
Bon. Vous avez une définition?
Quand tu habilles quelque chose, tu peux le modifier.
Ah, j'ai pas trouvé.
Oui.
Bon. Tu vois, je continue. Et si vous avez une idée, il y a le vêtement qui est là pour. On a dit pour. Pour exprimer, c'est-à-dire pour exprimer quelque chose, voilà, et un autre vêtement qui est là pour cacher quelque chose. Et la Torah, tous les vêtements qu'on a dans la Torah, ça veut dire par exemple, la Torah, le fait qu'elle s'est habillée dans des concepts matériels, n'est pas là pour exprimer quelque chose, mais est là au contraire pour cacher un concept. Et pour qu'il soit à notre portée. Comment tu dis ? Camouflé, ouais,
voilà, bon, c'est pas voilà. Une allusion.
Ouais, il faut une définition. Intérioriser ? Exprimer.
Oui, mais l'expression, c'est l'extériorisation, c'est ça. Ça peut être toute forme d'expression. Extérioriser quelque chose.
Intérioriser.
Et le problème, c'est quand on dit intérioriser, il va nous manquer encore quelque chose.
Ah, c'est.
Dans ce que tu décris comme définition, il manque encore.
Ouais. C'est ce qui va nous permettre de véhiculer un message en le cachant. Bon, on trouve une définition.
Contenir, c'est vrai que c'est...
Parce que ça aide quand on trouve une définition. Alors, donc qu'est-ce qu'il dit de l'Admor HaZaken ici ? Il dit que... Tu as une définition ?
Non. C'est le mot qu'on avait utilisé...
Le mot qu'on a utilisé...
Comment s'appelle la question qu'on a eu à la création ?
La rupture. Tsum-tsum.
La rupture.
Oui.
C'est la tsum-tsum. On recherche. On peut traduire en...
Le vêtement qui compresse, le rouleau compresseur.
Sinon, la contraction.
Oui, j'ai compris. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Bon. Non, mais là, ce que je vais expliquer, c'est que.
Zipé.
Allez. Allez, bon, monsieur, on avance. D'accord. Alors, Obiri Data, on reprend Obiri Data. Je ne sais pas quel il en est dans le. Dans l'unité de
Niagine. Voilà.
On a beaucoup de chiffres 10 aujourd'hui. Hein.
10 en partant du mort, dernier mot.
Oui. Obiri Data. Obiri Data. Bishtal Shulut Meolam Leolam. Gam Ashrina Yarda Venit Lapshaba Bechol Olam Veolam. Donc, quand la Torah va descendre, donc on a expliqué qu'elle va descendre à chacun des niveaux. On va essayer de décortiquer un petit peu chacun des niveaux. On va expliquer qu'il y a la Gemara, il y a la Mishnah, il y a le Chumash, etc. Donc c'est des niveaux, d'accord, dans lesquels la Torah, plus on avance et plus elle descend dans des concepts matériels. Ce qui va se passer, c'est que la Shrina descend en même temps. C'est-à-dire que la présence divine descend en même temps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il a un message en haut, qu'après il dit, bon, moi je reste en haut et vous essayez de comprendre ce que vous pouvez. Non. Ce qui se passe, c'est que quand le message descend, la présence divine descend en même temps avec le même message. C'est pour ça que quand j'étudie la Torah, même si je l'étudie une fois qu'elle est descendue et qu'elle a été adaptée 10 000 fois, j'ai toujours la même Shrina qui est dedans. Et c'est ce qu'on appelle dans le Zohar, Vezeu Echal Kodesh Akodashim Shebechol Olam Veolam. On dit que dans chaque monde, c'est-à-dire dans chaque état de notre vie, on aura toujours un niveau qui s'appellera le Saint des Saints. C'est quoi le Saint des Saints? C'est la Shrina qui va accompagner chaque chose qu'on va étudier. Ça peut être un enfant qui étudie un pasuk de Chumash, il a la Shrina qui l'accompagne. Ça peut être quelqu'un qui est en train d'étudier un texte de Zohar, il a la Shrina qui l'accompagne. La même Shrina. Pourquoi c'est la même Shrina? C'est le concept des madrigotes. C'est le même message qui est descendu. Donc il y en a un qui va le prendre tout en bas, il y en a un qui va le prendre un peu plus haut. Mais c'est le même message.
Pourquoi on a besoin du Kodesh?
Pourquoi on a besoin du Kodesh? Parce que, pour t'expliquer, c'était pour répondre à la question de Daniel, ça. Pour dire qu'à chacun des niveaux, c'est pas qu'on te dit, bon, peut-être un jour tu arriveras tout en haut, si tu arrives en haut, tant mieux. Je te dis non. Même si tu arrives pas tout en haut, tu es arrivé que tu es resté tout en bas, au niveau où tu étais, tu as déjà eu le Kodesh HaKodashim. Sauf que la Torah me demande d'aller chercher le Kodesh HaKodashim du monde au-dessus et au-dessus et au-dessus. Mais à chacun des niveaux, tu as le Saint des Saints. Et c'est pas faux. C'est-à-dire, quand tu vas prendre quelqu'un qui va te dire, moi, pour moi, Dieu se trouve dans le Chumash, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Oui, c'est vrai. Après, t'en as qui va dire, il se trouve dans la Mishnah, c'est aussi vrai ce qu'il dit. C'est pas un mensonge. Parce que après, c'est combien Kadosh Baruch Hu est descendu? Alors, je saute les... Akumo Shekatouf, non, je saute pas. Akumo Shekatouf, Bezor, Betzraim, Shashrina, Shehi, Malchut, Deatzilut. Donc, comme c'est écrit dans le Zohar et dans Etzraim, donc le Zohar, Etzraim, c'est le Zohar qu'on connaît, et Etzraim, c'est de Rabbi Chaim Vital, Shashrina, Shehi, Malchut, Deatzilut, que la Shrina qui correspond à Malchut, Deatzilut, ça veut dire le plus bas niveau du monde de Atzilut, qui est le plus haut niveau qu'on connaît. Alors, je saute les crochets. Imitla Beshet, Bechal, Kodesh, Kodashim, Debria, Shehi Chabad Dibria, Obeit Lapsutan de Malchut Dibria, Nivreu Aneshamot Vamal Achim Shebebria. Bon, je vais expliquer brièvement. Ça, c'est pas grave si on ne comprend pas. Hein. Enfin, c'est pas grave. D'accord? Pardon? Donc, ce qu'il explique ici, c'est que, de manière générale, on a quatre mondes. On a Atzilut, Bria, Yetira, Asiya. C'est pas la première fois qu'on en parle. On a quatre mondes. Donc, le premier monde, c'est Atzilut. Donc, c'est le monde, il appelle aujourd'hui le monde de l'émanation. Bria, c'est le monde de la création. Yetira, c'est le monde de la formation. Et Asiya, c'est le monde de l'action. D'accord? Donc, vous voyez comment plus on avance, et plus on prend une forme, plus ça prend une forme matérielle. Bon. Donc, de manière générale, c'est quatre mondes, d'accord? On a parlé beaucoup de ces quatre mondes qui sont en vérité toujours, donc, le même concept, c'est Terra Madrigote, c'est-à-dire, c'est des niveaux. Après, dans chacun de ces mondes-là, on a sans fin de niveaux, d'accord? Sans fin de niveaux et de variantes. Bon. Ce qui explique ici la Mourazaken, c'est que dans chacun de ces quatre mondes, on a toutes les structures qu'on a expliquées dans le Zohar tout à l'heure. On a Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et dans chacun de ces quatre mondes, on aura exactement la même structure. C'est quoi la structure? On aura toujours la Chorma qui sera en haut. Le rôle de la Chorma, ce sera le cerveau. D'accord? Le cerveau, ça veut dire, c'est lui qui va, donc le cerveau, ça veut dire, c'est lui qui va redistribuer à chaque personne ce qu'il a besoin. Et on aura toujours le dernier de la chaîne, qui sera le Malchut. Lui, son rôle sera de transmettre à celui qui est en dessous. Au niveau inférieur.
C'est la réaction en chaîne.
D'accord? Réaction en chaîne, exactement. Et ça s'arrête, et c'est sans fin. Alors, de manière générale, on sépare ça en quatre mondes, qui correspondent aux quatre lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke et Vavke. D'accord? De manière générale, nos Neshamot sont liés au dernier monde, mais bon, sans vous compliquer, ce qu'on explique, c'est que, de manière générale, il y a quatre mondes, mais après, dans chacun de ces quatre mondes-là, on a sans fin de niveaux. D'accord? On a une variété de niveaux sans fin. Mais on aura toujours la même structure. La même structure qui dit que, on aura la Chorma qui est en haut, donc le quartier général, le centre nerveux, qui va qui va faire passer donc Chorma Bina Da'at, Resek Voratiferat Tetzah Chadisod Malchut. Donc on aura le côté droit, le côté gauche et le côté du milieu, pour enfin arriver en bas à Malchut, qui lui va communiquer avec le niveau d'en dessous. Et ça ira toujours donc, plus bas. D'accord ? Donc ça veut dire il va passer au travers des Midot pour aller à Malchut. Malchut va passer à la Chorma du niveau d'en dessous.
Ça, c'est bien l'énergie de Giloui, c'est bien ça.
Oui, l'énergie du Giloui.
Mais
d'accord.
L'énergie,
quand elle circule dans les... Mais ce qui m'expliquait ici Admor Hazaken, c'est que finalement, l'énergie qui passe par tous ces mondes-là, c'est toujours la Chorma qui vient du premier niveau, la Chorma de Atzilut. Et donc de Ensof, de l'infini. Puisque, comme il a expliqué tout à l'heure, je vous dis dans le mot, je l'ai pas traduit, d'accord ? Vehuit barer vechormato echad. Il a repris un texte de Maïmonide qui dit que Akadosh Baruch Hu et sa Chorma forment une seule chose. Donc ça veut dire que la Chorma de Atzilut, c'est Dieu. D'accord ? Et nous, même si après ce message, avec le temps, il a été adapté, il est descendu, avec le système de réaction en chaîne qu'on a expliqué, il n'y a pas de problème. Mais finalement, réaction en chaîne ne veut pas dire que le message qui est en bas, c'est pas le même message qui est en haut. Réaction en chaîne veut dire que le message qui est en bas, il a dû être adapté. D'accord ? Il a dû être modifié pour arriver en bas. D'accord ? Mais c'est toujours le même message qui est en haut. C'est ce qu'il explique ici à l'Admor Hazaken. Oui ?
Première question. Lorsque l'énergie est circulée dans les sphérotes, comment elles sont créées les séphirotes au départ ? Je veux dire, pour qu'elles circulent dans une sphère, dans un réceptacle, il fallait bien créer le réceptacle.
Il y a le or et les kélim.
Ouais, comment elles sont créées les kélim ?
Je peux te répondre. En deux mots, les kélim ils sont créés par le qu'on appelle le or Ayuli.
Tu fais partie de quoi ? Or
des Tohu. C'est le thème. Mais bon, c'est un autre thème, oui.
Deuxième question.
Mais bon, s'il faut.
Comment il fait, Sam, pour arriver ?
Comment il fait ?
Par quel canal il arrive, Sam ?
Il n'a pas de canal.
C'est extraordinaire, ça.
Ah oui. Alors, bon, on referme la parenthèse.
C'était dans quel chapitre, ça ?
Hein ?
Tu sais comment il maîtrise.
C'est dans combien d'années, ça ?
Non, ça, c'est pas année.
Il est trop bon. Considère combien de temps ?
Alors, donc Malchut d'Atzilut, je lis rapidement le crochet. Allez, on y va. Quelle heure il est?
10h moins
le quart. Quelle heure?
Moins 20
passé. Bon, j'ai l'envers quelques lignes, on va s'arrêter. Donc, Shehi, Prinat, Gilui, Orensov, Farouchouch, Vechayut, Shemeir, Leolamot, Velachen, Inikret, Dvar Hashem, Ruachit, Kaviachol, Alderech, Machal, Kemo, Shebe Adam, Adibur, Umegale, Mahashavto, Astuma, Venelma, Leashemarim. Il dit, dans la Torah, on voit souvent qu'on nous parle du Dvar Hashem, de la parole d'Akadosh Baruch Hu. On dit Dieu a parlé, Vaïdaber Hashem. Quand on a fait un cours le Shabbat d'après-midi sur ça. On a expliqué que ça veut dire quoi quand on dit que Dieu a parlé, ça veut dire quoi que Dieu a parlé. Ça veut dire que Dieu s'est exprimé. Alors explique l'Admor Hazaken, quand on dit que Dieu a parlé, par rapport à quel niveau on parle ? On parle pas de la Chorma, on parle de la Malchut. Puisque le rôle du Malchut, c'est de transmettre au niveau d'en dessous. Donc c'est le rôle de la parole. Le rôle de la parole, c'est de transmettre à quelqu'un, de communiquer à quelqu'un. Donc c'est pour ça que le Malchut de Atzilut, rappelez-vous qu'est-ce qu'on avait dit dans le Zohar ? On a dit Malchut P, Torah Shebal P, Karinenla. Vous rappelez ? On a dit que Malchut c'est quoi ? Malchut c'est la bouche. On appelle ça Torah Shebal P, la transmission. Bon, il explique. Donc, on va descendre, donc il y aura la Chorma, c'est le premier niveau, c'est le quartier général. Après ça va passer par tous les niveaux. Chorma, Bina, Da'at, Resek, Vora, Tiferet, etc. Ensuite on arrive à Malchut, le rôle de Malchut c'est de transmettre. Ensuite. Imit la bechet, Bechal Kodesh Kodashim, Debria, Shehi Chabad Debria. Donc le dernier niveau de Atzilut va devenir le premier niveau de Bria. Donc comment t'appelles ça ? T'appelles ça la réaction en chaîne. C'est-à-dire que le dernier niveau d'en haut va devenir le premier niveau d'en bas. C'est pas des niveaux séparés. C'est ça ce qu'il disait que l'Admor Hazaken veut nous ramener ici. C'est que ne crois pas que la Torah que tu dis ici n'a rien à voir avec ce qui est en haut. Bien sûr qu'elle a été adaptée, elle a été descendue, elle a été camouflée, tout ce que tu veux. D'accord ? Pas de problème. Mais, c'est la même Torah, puisque dans chaque monde, comment ça se passe ? Le dernier niveau d'en haut et le premier niveau d'en bas. Du monde d'en dessous. Sheikh Ubeit Labshutan de Malchut de Bria, Nivreu Aneshamot, Ve'amal Achim chez Bebria. Ve'gam Misham, Nimshach Atalmud chez Lefanim. Donc le premier niveau, le niveau le plus haut, le niveau de Hatzilut, ça correspond au Zohar. Le niveau d'Atzilut, ça correspond au Zohar, et ça correspond au Neshamot des grands tzadikim. Le niveau d'après, c'est le niveau de Bria. Le niveau de Bria correspond à quoi ? Correspond au Talmud. D'accord ? Torah chez Baal Pé. Je crois que ça correspond au Talmud, qui a rapport avec le Talmud. C'est le Zohar qui a dit, que Malchut, c'est Malchut P, Torah chez Baal Pé, Karinenla. Parce que rappelez-vous, le dernier niveau est le premier niveau suivant. Donc le dernier niveau de le dernier niveau du monde de Atilut, c'est Malchut. Ce Malchut-là va devenir le quartier général de Bria. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Hazaken? C'est quoi Bria? Bria, c'est le monde du Talmud, c'est le monde de l'étude. Pourquoi? Parce qu'après, plus on va avancer, et plus on va adapter le message, on va le faire descendre. Le premier niveau, c'est le Zohar, carrément du spirituel. Après, on va passer au Talmud. Pas à la halakha. Dans le Talmud, il y a la Mishnah, d'accord? Et justement, c'est pour ça la question qu'il a posée tout à l'heure, Guy, il a dit, c'est pas dans l'ordre que c'était donné. Enfin, dans l'ordre qu'on étudie, en tout cas. Là, je dis dans l'ordre dans lequel ça descend. Première chose, c'est le Zohar. Enfin, le Zohar, le Pnimut à Torah, ce qui est le plus profond dans la Torah. Ça, c'est Atzilut. Après, ça va descendre. Bria. Ça va être un peu plus matériel. C'est la Gemara. Mais la Gemara, sans forcément arriver à une conclusion halakhique. Et des fois, on peut aller dans la Gemara, on peut partir dans des choses qui n'ont pas forcément d'implication halakhique. Les implications halakhiques, c'est déjà le monde suivant. D'accord ? Des fois, on étudie la Gemara, et très souvent, il n'y a pas forcément d'implication halakhique. Enfin, on va chercher des choses qui n'ont pas d'implication halakhique. Ça, c'est quoi ? Il dit ici, ça, c'est le Talmud chez les Fanenou. D'accord ? Misham Nimshach à Talmud chez les Fanenou, c'est-à-dire la même Gemara qu'il y a devant nous. Hein, ne crois pas qu'il y a une autre Gemara. La même Gemara qu'il y a devant nous, c'est quoi ?
Adapté.
D'accord ? C'est déjà une adaptation du monde de dessus. On a adapté le message. Le message est déjà descendu, le message a pris une forme un peu plus matérielle. Ukmo. Chez Nidber Léel, comme on a expliqué dans le chapitre 39, Beshem Atikunim, Shebeolam Abriya, Meirot Mashpiot Sham, Chochmato Ubinato Shvedato Shelensa Baruchu, Viprina Tsimtsum Atsum, Birde Sheyuchlu Aneshamot Vamalachim Shem Balekbul Vetachlit, Lekabel Ashpa'a, Viprina Trabad, Elou. Je dis rapidement parce que j'explique à l'oracle. Velachen, Nimshach Misham Atalmud, Sheu Gamken, Prina Trabad. Donc il dit, c'est pour ça. Que de ce premier, donc de ce le premier monde.
Donc dans la même catégorie que le Malachim alors.
Oui. Exactement. Même catégorie que Malachim, c'est quoi? La même catégorie que Malachim, c'est le Talmud. Maintenant après, bien sûr, le Talmud, bon, nous on peut le comprendre comme on le comprend. D'accord? Dans le Talmud aussi, rappelez-vous ce que je vous expliquais, c'est que dans chacun de ces mondes-là, on a une variété, ça veut dire que dans le Talmud, tu peux comprendre encore plus, encore plus, encore plus. Il y a 4 niveaux. D'accord? Mais dans chacun de ces 4 niveaux, tu peux aller sans fin. Comme il dit qu'il y a Kadosh, qu'il y a un nombre. Combien de mondes Akadosh Baruch Hu a créé, mais dans chacun de ces mondes, il y a un nombre de mondes sans fin. Ça veut dire que...
Sans fin.
Oui, sans fin. Dans le Zohar, tu étudies le Zohar. Voilà, on peut étudier du Zohar, on va comprendre. Mais dans le Zohar même, tu peux aller tirer sans fin, et ça ne s'arrêtera jamais. Pareil dans la Gemara. D'accord ? Dans la Gemara, qui est déjà le deuxième niveau, tu peux étudier et comprendre. D'accord ? On étudiait la Gemara, ça a 6-7 ans, on comprenait. Mais après, tu peux aller tirer, tu vas pousser encore beaucoup plus loin. Et donc ça, c'est avec ça, Admor HaZaken veut expliquer, je m'arrête ici pour aujourd'hui, quel concept veut expliquer, le fait que c'est le Malchut du premier monde qui est devenu le Chorma du monde suivant. Donc c'est le même message, sauf que c'est un message qui a été adapté, c'est un message qui a été camouflé, c'est un message qui a été caché. Mais c'est exactement le même message, et c'est le même message qui provient du même cerveau. C'est quoi le cerveau? Le cerveau, c'est Chorma des Atzilut. D'accord. Alors, quelles sont les implications pour nous, pour notre vie? Pour l'instant, il n'y en a pas. On n'a pas du tout parlé. Pour l'instant, c'est purement théorique ce qu'on est en train de dire. C'est seulement quand on arrivera au chapitre 53 que là, après, il va commencer à parler du Beth Amikdash, le Beth Amikdash qui est en nous et les implications, comment on peut appliquer ce principe-là dans notre vie. Mais là, pour l'instant, c'est purement théorique ce qu'on est en train d'expliquer là de Admor HaZaken. Donc, c'est le concept. Si on peut résumer en deux mots ce qu'on explique aujourd'hui, on a expliqué le concept de la réaction en chaîne. Et dans le concept de la réaction en chaîne, que même si le produit final n'a rien à voir avec le produit initial, c'est vrai, tu le prends les deux l'un à côté de l'autre, ils n'ont rien à voir. D'accord? En apparence. D'accord? Même si en apparence, ils n'ont rien à voir. Mais étant donné qu'il vient du premier produit, donc, il y a forcément un rapport. Il y a forcément un sens. Et plus que ça, ce qu'il a expliqué, c'est que chaque fois que la Torah, elle descend, il y a chaque fois la Shrina qui descend avec. Donc si je reprends la question du début, qu'on a posée il y a un mois. On a dit, d'un côté, tu me dis que la Shrina est omniprésente. D'un autre côté, tu me dis que la Shrina va s'adapter à chacun des endroits. Qu'est-ce que je vais te répondre? Ça dépend. Si on parle du Etzem, là, effectivement, la Shrina est omniprésente. Elle est partout de la même manière. Il n'y a pas de différence entre le Zohar, le Talmud, il n'y a pas de différence. D'accord? Mais si tu me parles du Gilou, du dévoilement, alors là, effectivement, on a une base. C'est quoi la base? Chorma de Atzilut. D'accord? Et c'est sur ça, bon, enfin, on parlera la semaine prochaine. C'est vrai que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit qu'il arrivait à ce niveau-là. Il arrivait au niveau de Chorma de Atzilut. Ce niveau-là. Moshe Rabbeinu aussi, il arrivait à ce niveau-là. Chorma de Atzilut. Ce niveau-là, c'est le top niveau. On ne peut pas aller plus loin que ça. C'est le top niveau de la profondeur de la Torah. Et ça, c'est le cerveau d'Akadosh Baruch Hu. Dans les termes du Zohar. Ce cerveau-là, d'accord, c'est lui après qui va donner naissance au Talmud, etc., à tout ce qu'elle. Mais c'est le cerveau. C'est la première création d'Akadosh Baruch Hu. La première création d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce cerveau. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a tout fait. et ça on parlera un peu plus la semaine prochaine, Bezrat Hashem, comment c'est ce cerveau qui donne naissance à tout ce qu'il y a dans la suite. Donc la semaine prochaine on parlera de la Mishnah, de la Halakha, des Midot. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça vous a aidé le Patach Eliyahu? Moi j'ai pas fait un vite mais...